je vais essayer de m'en tenir à la corrélation des deux objectifs.
Attendez, Benjamin de Couverture, on va vous donner la parole.
Non, mais c'est pas distrait.
On va tenter d'analyser l'offensive israélienne en Iran dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Avec cette question, est-ce qu'Israël veut en finir avec le nucléaire ou avec le régime? Les pistes sont brouillées car évidemment, il y a la volonté affichée de stopper un programme nucléaire menaçant pour Israël. Mais depuis vendredi, sont pris pour cible des postes de police, des sites économiques, des ministères. Ce lundi, la radio-télévision d'État iranienne. Bref, des lieux de pouvoir pour Téhéran. Est-ce qu'Israël tente là de faire tomber le régime des Mollahs? Mais peut-il y parvenir? Comment la situation peut-elle évoluer? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités en studio à mes côtés, Didier Billion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient. Votre ouvrage « Géopolitique des mondes arabes » face à vous. Donc, Benjamin Haute-Couverture, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation du débat du jour sur RFI. Alors pour commencer, pour camper le décor, Didier Billion, pourquoi Israël a décidé de lancer cette offensive en Iran dans la nuit de jeudi à vendredi? Pourquoi ce tempo de... donc on était dans la nuit du 12 au 13 juin.
La raison, elle est politique avant tout. Rappelons-nous et reprenons la séquence. Effectivement, dans la nuit du 13 juin, début des bombardements israéliens contre l'Iran. Or, nous savions qu'il y avait deux échéances diplomatiques importantes qui étaient planifiées, qui étaient prévues. La première d'entre elles, c'était le 15 juin, dimanche. C'était le sixième round de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et il y avait une deuxième initiative
sur le nucléaire.
Et il y avait une deuxième initiative diplomatique qui était planifiée pour le 18 juin, celle-ci à New York, à l'ONU, co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite, dans la perspective hypothétique, je reste très prudent, de parvenir à la reconnaissance de l'État de Palestine. Dans les deux cas, ces négociations, nous le savons, étaient très compliquées. N'avions pas d'assurance qu'elles puissent aboutir positivement. Mais ce qui m'importe, moi, c'est de souligner le fait que, et il le prouve depuis maintenant, malheureusement, plusieurs mois, Netanyahou est décidément opposé à toute hypothèse de solution politique aux différentes tensions, différents et conflits qui existent au Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, il a réussi puisque ces deux initiatives diplomatiques ont été purement et simplement, alors nous dit-on, reportées.
Ouais, mais le
report risque de prendre quelques semaines, voire quelques mois.
Il torpille en fait finalement les négociations.
C'est exactement ça.
Parce que selon lui, seul vaut l'option militaire.
Ben oui, il le dit, il le répète, il s'en félicite. Je me souviens très bien d'une déclaration de Netanyahu au mois d'octobre dernier, où il se félicitait, dans un discours qu'on peut retrouver facilement, d'être en guerre sur 7 fronts différents. Ouais. Il s'en félicitait, il s'en vantait. Mais clairement, on ne va pas faire la liste des 7 fronts, non. Mais le front le plus important pour lui était et reste l'Iran, qu'il veut absolument... Je ne sais pas s'il y parviendra à mettre à bas le régime, mais en tout cas mettre l'Iran à genoux. On poursuivra la discussion sur cet aspect. Donc, cette vision totalement militariste, belliciste de la situation régionale, le fait que désormais, notamment depuis le 7 octobre, il agresse littéralement au mépris total du droit international la plupart de ses voisins. Rappelons-nous par exemple qu'en Syrie, après la chute de Bachar el-Assad, dès le 8 décembre 2024, il s'est arrogé l'autorisation de bombarder un certain nombre de bases syriennes pour réduire à néant l'armée syrienne, est un indicateur. Et puis évidemment, c'est, disait l'autre, la mère de toutes les batailles, c'est ce qui se passe à Gaza. Quel est le projet politique à Gaza? Il y a un acharnement barbare pour moi. Il y a une politique génocidaire de ces bombardements indiscriminés qui existent maintenant depuis 17 mois. Et quand on a quelques images de Gaza, il ne reste quasiment plus rien. Je ne parle même pas de la situation terrible de la population de Gaza. Mais bien, le plus tôt sera le mieux, il faudra bien un moment arrêter et se mettre autour d'une table pour discuter. Pour l'instant, Netanyahou pense que la solution militaire, je mets le mot « solution » entre guillemets, reste la seule valable pour les intérêts, pense-t-il, de l'État d'Israël. Ce en quoi il se trompe lourdement, parce que je pense qu'à terme, sa politique aujourd'hui va contribuer à totalement isoler Israël dans son contexte géopolitique.
On en parlera, c'est intéressant. Benjamin de Couverture, est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que là, on a face à nous une diplomatie militaire, je dirais ? Je ne sais pas, ce sont peut-être deux mots opposés, mais c'est la vision de la diplomatie par Benjamin Netanyahou, qui avait déjà fait ça en septembre 2024, la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. C'était 10 jours après l'adoption à l'ONU d'une résolution à l'initiative de la France, d'ailleurs, pour qu'Israël mette fin, je cite, sans délai à sa présence illégale à Gaza. Encore une fois, c'est un exercice diplomatique assez haut de voltige. Il fait diversion sur ce qui se passe à Gaza. Il a aujourd'hui l'approbation quand même des Occidentaux, puisqu'on parlera avec vous notamment de tout ce qui est fait pour tenter de mettre un coup d'arrêt au nucléaire iranien, ce qui satisfait d'une certaine manière les Occidentaux. Comment vous voyez ça ?
Non, je vais apporter quelques compléments à ce que M. Billon vient de dire, et puis quelques nuances aussi. Moi, mon prisme, c'est le prisme nucléaire, essentiellement. Et donc, je reviens sur la première question que vous aviez posée. Pourquoi ce moment-là ? Quelle est la question du timing ? Rappelez-vous que le président Trump avait donné aux Iraniens 60 jours pour parvenir à un accord. Un accord assez imposé tout de même, mais bref. Le jour de l'attaque était le 61e jour. C'est une fenêtre d'opportunité très petite, à l'heure près. Par ailleurs, depuis plus d'un an, l'Iran ne peut quasiment plus s'appuyer sur ses ressources asymétriques qui étaient celles que l'on connaît au Liban, à Gaza, en Syrie.
Ce qu'on appelle ses proxys.
En Syrie, au Yémen, ce qu'on appelle dans un mauvais français, ses proxys.
Merci.
Je vous en prie, cher ami. Et en plus de cela, vous avez remarqué que l'Iran est totalement isolé diplomatiquement et que le soutien qui lui a été apporté par la Chine et par la Russie, d'une certaine manière, s'est fait du bout des lèvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien militaire russe et chinois, en termes capacitaires à l'Iran.
L'Iran est très isolé.
Et c'est de cela que je parle. Par conséquent, cette fenêtre d'opportunité était historique. Le gouvernement israélien n'a jamais eu une telle possibilité d'attaquer directement les installations nucléaires comme il le souhaite depuis le début du contentieux nucléaire en 2003. Donc, c'est une affaire qui n'est pas celle du gouvernement Netanyahou. Ce n'est pas une affaire qui a quelque chose à voir avec ce qui se passe.
C'est lui qui décide.
Dans cela que je fais une nuance. C'est une affaire israélienne depuis plus de 20 ans. Je répète ce que je disais ici il y a quelques jours. Il y a 20 ans à Tel Aviv déjà, on me tapait sur l'épaule en me disant « Benjamin, n'aie pas peur, il n'y aura jamais d'armes nucléaires en Iran. » Il fallait pour cela que 1. L'avancée du programme soit suffisamment critique. Or, elle l'est devenue. Et ça, je peux l'affirmer, elle l'est devenue. Et deuxièmement, il fallait cette fenêtre d'opportunité militaire, mais aussi diplomatique. Je vous rappelle que dans les raids israéliens d'avril et d'octobre 2024, les défenses antimissiles ont été mises à bas. Par conséquent, les 4 gros systèmes de défense antimissile dont disposait l'Iran n'étaient plus fonctionnels. Et pour le reste, l'Iran, je le rappelle encore, n'a pas d'aviation ou si peu constituée. Par conséquent, la voie était totalement libre. Ils se sont servis de cette fenêtre d'opportunité, de cette brèche historique, encore une fois, pour avancer et pour détruire ce qu'ils devaient détruire selon une planification qui a plus de 8 mois et qui précède l'arrivée à la Maison-Blanche très largement de Donald Trump, et j'en terminerai là-dessus, pour finir par faire ce qu'ils avaient dit, et ils l'avaient dit ce qu'ils feraient depuis fort longtemps.
Donc vous nous dites finalement qu'Israël va empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et protéger ainsi le monde de cette menace ?
Le monde, non. Leurs propres intérêts. Le monde s'en fiche. Demandez à l'Indonésie ce qu'elle a à faire de l'Iran nucléaire, ils s'en contrefichent. En revanche, l'Israël ne s'en fiche pas du tout. C'est une menace qu'ils perçoivent, eux, comme étant existentielle depuis 25 ans.
Mais qui est réelle ou qui est de l'ordre de la dissuasion nucléaire ?
On ne peut pas le savoir, parce qu'ils n'ont pas d'outils de dissuasion. Donc, pour le moment, ils n'ont rien. imaginez-vous à la place d'Israël. Est-ce que vous feriez le pari de dire, si ça se trouve, ce n'est que de la dissuasion? Eh bien non. Si vous avez la possibilité de mener des actions de contre-prolifération armée pour empêcher qu'un État adverse détienne l'arme nucléaire, comme par exemple la France le ferait avec d'autres de ses ennemis, eh bien vous le feriez. N'importe qui de raisonnable le ferait. Mais... Et ce faisant, je m'en tiens à une logique du réel et non pas à une logique du souhaitable. J'insiste parce que je ne veux pas être taxé de cynique, si bien vous sûr. Voulez. Je dis ce qui est et non pas ce qui potentiellement devrait être. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler.
Ah ouais, avant de donner la parole à Dibillon, parce que je vois que vous voulez réagir, et je comprends, vous qui êtes expert, encore une fois, nucléaire, Benjamin Haute-Couverture, est-ce que Israël peut démanteler les infrastructures liées au programme nucléaire iranien, à détruire le programme nucléaire iranien? Est-ce que ça, c'est possible de la part d'Israël? Qu'est-ce qu'on sait, vous qui observez ça de près depuis vendredi, qu'est-ce qu'on sait de ce qui est mené en termes d'offensive sur les... Parce qu'évidemment, les sites nucléaires, ils sont ciblés, ils sont touchés.
Ouais. Israël le peut, mais ça dépend des moyens qu'il se donne. Mais si, et nous en reparlerons peut-être, parce que ça reste une hypothèse, le régime est mis à bas, et que par conséquent, un chaos s'ensuit. Dans cette période qui s'ouvre de chaos, oui, il sera possible de détruire la totalité des installations. Pour le moment, ce n'est pas possible, parce qu'une grande partie est clandestine, parce qu'une partie de ce qui est clandestin est enfoui, et que les Israéliens à distance ne disposent pas des engins explosifs, en particulier de bombes anti-bunkers puissantes, pour y parvenir. En revanche, il y a d'autres moyens naturellement d'y aller, c'est-à-dire d'envoyer des équipes sur place, et si le régime est mis à bas, naturellement, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour détruire tout ce qui existe. Alors, voilà. Et c'est peut-être là que le lien se fait entre la chute du régime et la fin du programme nucléaire.
Ben c'est au cœur de notre débat, parce qu'on demande est-ce qu'Israël veut en finir avec le nucléaire ou avec le régime. Didier Billon, la main de couverture, nous dit finalement, si le régime tombe, peut-être que Israël pourra en parvenir à en finir avec le nucléaire iranien. Il s'effectue là la relation de cause à effet, selon vous ?
Ah bah ça, il y a une relation de cause à effet entre le dossier du nucléaire à proprement parler et la stabilité et l'hypothétique chute du régime. Évidemment, oui, puisque ça devient l'élément cristallisateur. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, c'est pas parce que Netanyahou... Alors, vous évoquiez tout à l'heure que ça fait 20 ans, en fait, ça fait 30 ans que les Israéliens considèrent qu'il y a par l'Iran, une menace existentielle. Mais ce n'est pas parce que les dirigeants israéliens le décrètent que c'est la réalité. Là aussi, il faut revenir au principe de réalité. Moi, je voudrais savoir pourquoi, mis à part quelques déclarations très précises de dirigeants iraniens qui avaient appelé à la destruction d'Israël, mais ce sont des exceptions dans le discours iranien, et quand ils parlent, selon le vocable qu'ils utilisent, de l'entité sioniste, et qu'ils parlent de la mise à bas d'un régime, ce n'est pas la mise à bas d'un pays territorialement, physiquement.
En quoi est-ce qu'Israël est vraiment... Parce qu'effectivement, il est souvent relayé dans la presse que l'Iran veut rayer de la carte Israël.
Mais c'est ce que Netanyahou... Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, Netanyahou est au pouvoir depuis, je crois, 23 ou 24 ans. Alors, il a été à un moment dans l'opposition, il est revenu, etc. Il a quand même une carrière politique désormais assez longue. Et il est toujours capable de retomber sur ses pieds au demeurant. Et il nous a déjà fait le coup, y compris à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Rappelez-vous sa fameuse carte où il nous montrait que l'Iran était sur le point d'acquérir la bombe nucléaire, dont je ne suis pas un spécialiste. Mais alors, moi, j'entends ça, travaillant sur le Moyen-Orient, depuis de bien nombreuses années, l'Iran va avoir la bombe atomique dans 6 mois. Bon, ils ne l'ont toujours pas, à ma connaissance. Donc là, il y a quand même une question de méthode, et je ne prends pas pour vérité révélée les déclarations de M. Netanyahou. Deuxièmement, sur l'isolement de l'Iran, je suis d'accord sur l'isolement militaire. Ça, c'est une certitude, non seulement parce que ce qu'on a appelé en bien mauvais français tout à l'heure, les proxys, ils sont désormais ou réduits à néant ou extrêmement affaiblis. Ça, c'est une réalité. Et ce qu'on appelle le fameux axe de la résistance qui avait été patiemment mis en œuvre par Téhéran, n'existe quasiment plus aujourd'hui.
Mais ça veut dire qu'Israël va faire qu'une bouchée de l'Iran? Comment ça va se traduire?
D'un strict point de vue militaire, c'est clair qu'il y a une asymétrie qui est très, très en défaveur de l'Iran. Il n'y a jamais rien d'évident, mais là, je pense que c'est un fait avéré. Mais pour autant, un régime, ce n'est pas uniquement les aspects militaires, même s'ils sont essentiels. Donc, ne pensons pas que le régime... Alors, tout d'abord, sur l'isolement international, là, j'ai pour le moins une nuance, parce qu'il est vrai que, pour l'instant, ni la Russie... pour des raisons évidentes. Ni la Chine vont intervenir en défense de l'Iran, c'est une certitude. Mais pour autant, quand on regarde les rapports de force au niveau international et ce qu'on appelle les États du Sud, le point de vue à propos de l'Iran et de ce qu'il considère comme l'agression israélienne contre l'Iran, point de vue d'ailleurs que je partage pour ma part, là, on est dans une autre paire de manches que les déclarations des puissances occidentales. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on condamne l'agression israélienne que pour autant les États du Sud, dans leur grande diversité, vont trouver des moyens, des initiatives qui permettraient de faire baisser la tension. C'est bien là une des limites de leur déclaration et c'est pour l'instant un exercice assez rhétorique. Et puis à l'intérieur, et je reviens là à la question, bien sûr, le régime iranien, il est très affaibli. Non seulement il a été soumis à un mouvement de contestation, femme, vie, liberté, dont on se souvient, ouais, mais il ne faut 2022. Pas là non plus prendre nos désirs pour des réalités. Le gouvernement, le régime iranien, il est bien installé, il a encore une base sociale, même si cette base sociale a été contestée, même si cette base sociale est affaiblie, ça je le pense, mais en même temps, s'il n'y avait plus de base sociale, ce régime aurait disparu depuis bien longtemps. Or, une chose est certaine, quand on travaille un peu sur la région, c'est de comprendre un élément structurant de la société iranienne, bien avant même l'instauration de la République islamique, c'est que nous sommes dans un pays profondément nationaliste, mais nationaliste au sens patriotique du terme. Et donc je pense que la situation que les Iraniens vivent aujourd'hui, elle va concourir à resserrer les rangs. J'écoutais un reportage...
Les rangs, l'opinion iranienne l'a resserrer derrière le régime ?
Oui, je le pense.
Parce qu'il y a aussi, est également évoqué le fait que finalement Israël puisse retourner l'opinion iranienne contre ses dirigeants. Ça, et donc, d'une certaine manière, le faire tomber. Ça, je pense, c'est le plan israélien.
Ça, je ne le pense pas seule seconde. C'est-à-dire qu'Israël ne parviendra pas à retourner l'opinion publique iranienne majoritairement.
Alors, c'est un enjeu ?
Bien sûr, c'est un enjeu.
Parce qu'en même temps, citiez le mouvement suite à la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Bon, il n'y a pas eu de changement de régime. Pourtant, il y a eu des manifestations en masse.
Mais c'est pour cela. Oui, mais ces manifestations en masse, c'était d'une importance politique capitale. Mais ce n'était pas des millions de personnes dans la rue. Vous voyez, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Et donc, le régime, il a une base sociale, encore une fois, j'y insiste. Alors, on peut le regretter, le condamner, mais la réalité est celle-ci. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de changement de régime. Et en plus, attention, vous savez, les Iraniens, c'est des gens qui sont très connectés au monde extérieur. Ils sont très informés. Ça, c'est aussi une constante. Et ils ont bien en tête de ce qui s'est passé en Irak en 2003, ce qui s'est passé en 2011 en Libye. C'est-à-dire que, là aussi, pour parler en bon français, le régime change, c'est pas trop leur tasse de thé, si je puis dire. Ils n'y tiennent pas, parce que ça risque d'aboutir à un chaos total. Et en Iran, vous n'avez pas de force politique alternative. C'est pas la famille du chat qui va revenir, c'est pas les moudjahidines du peuple qui pèsent en quoi que ce soit sur la situation intérieure. Donc tous ces éléments, la population iranienne l'intègre dans ses réflexions, et je ne pense pas qu'il y aura un changement de régime politiquement parlant.
Est-ce qu'Israël veut en finir avec le nucléaire iranien ou avec le régime de Téhéran ? C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, au quatrième jour de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Mes deux invités sont Didier Billon, que l'on écoutait, qui est directeur adjoint de l'Institut des Relations internationales et stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de Géopolitique des mondes arabes, et Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, je vais vous donner la parole à présent. Benjamin Haute-Couverture, vous allez répondre à ce qu'a dit Didier Billon, qui nous dit que finalement, il pense qu'il n'y aura pas de changement de régime. Quelle est votre opinion, sachant que, c'est pas étonnant, mais le premier ministre israélien muscle cette offensive, tuer l'ayatollah Khamenei mettrait fin au conflit. Ça, c'est ce qu'il a déclaré il y a à peu près une heure à la télévision, Benjamin Netanyahou. Et évidemment, on évoquait les sites nucléaires qui sont touchés, les sites militaires, mais il y a les sites économiques. Cet après-midi, il y a eu la radio-télévision d'État iranienne qui est touchée.
Je réponds avec plaisir et aussi avec modestie parce que je ne suis pas un spécialiste de la scène politique et sociale iranienne. Je constate moi aussi depuis longtemps que le nationalisme iranien est très fort dans le sens patriotique que vous venez d'indiquer. Et plus cette suite de raids continue, plus elle nourrit en effet ce patriotisme. Et beaucoup d'éléments viennent le documenter depuis quelques jours. Je suis très probablement d'accord avec vous aussi sur le fait qu'il n'est assez improbable de penser de manière réaliste à un changement de régime. Ce n'est pas ce dont je parlais. Je disais que dans la logique israélienne, mettre à bas le régime, non pas le changer, mettre à bas le régime actuel ouvre une fenêtre dans ce chaos pour finir le travail, si je puis dire.
Le travail sur le nucléaire.
Oui, terminer le travail de démantèlement de ce qui existe.
C'est la seule condition pour Israël, pour démanteler...
Pas forcément, mais en tout cas, c'en est une qui est efficace à l'évidence, si vous voulez, c'est du bon sens. Par ailleurs, je
Et à l'inverse, pardon, je vous posais la question, si Israël termine cette offensive, a touché évidemment les infrastructures nucléaires, mais n'a pas fait tomber le régime, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les années suivantes, le régime durcisse, accélère encore plus face à cette menace ?
Non, mais bien sûr, mais on y reviendra, je pense, parce que c'est une évidence, et ça, c'est le deuxième temps.
Okay.
Et le risque que l'Iran, dans ce cas-là, sorte du TNP, n'est plus un risque, c'est une menace qui est avérée dans un scénario à la nord-coréenne de janvier 2003. On va peut-être y revenir, mais j'aimerais quand même finir.
Alors après, le temps tourne,
j'aimerais finir là-dessus, parce que c'est important de finir. Je crois tout de même, vous ne m'avez pas dit le contraire, que j'ai suffisamment d'esprit critique sur cette question nucléaire pour ne pas répéter le discours de Netanyahou. Du reste, je ne l'ai jamais répété. Donc, pour moi, le fait pour les ingénieurs iraniens de s'approcher du seuil nucléaire et même de l'obtention d'une bombe nucléaire ne relève pas d'une vérité révélée. Pas du tout. Je me fonde sur les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
400 kilos d'uranium enrichi à
200%. Sur les deux derniers, du 30 mai et du 2 juin dernier. Quand on regarde ces rapports, on sait à présent, et qu'on se livre à un certain nombre de calculs arithmétiques, on sait que l'Iran, en probablement une dizaine ou une quinzaine de jours, va pouvoir se doter d'une dizaine de charges pour constituer une arme. On ne constitue pas une arme en semaine, ni en mois. Ça veut dire que si jamais toutes les choses sont égales par ailleurs, l'Iran pourrait se doter de quelques engins, premiers engins, et non pas d'une force de dissuasion, c'est encore autre chose, probablement dans un an et demi. Bien. Donc on parle de ce timing-là. Et le reste n'est que littérature et n'est que propagande. Mais en revanche, cette vérité-là, je l'affirme. C'est-à-dire que oui, l'avancée du programme et de la filière uranium et de l'enrichissement de l'uranium est telle qu'ils ont aujourd'hui suffisamment de charges pour arriver à une qualité militaire. Pas une qualité arme, mais une qualité militaire. Une qualité militaire d'enrichissement suffira à avoir des armes sommaires, mais qui pourraient fonctionner, qui seraient de toute façon plus puissantes et plus dangereuses que celles qui ont été utilisées à Hiroshima. À partir de quoi nous avons donc là un stock de matière fissile qui est protégé, qui est enfoui, peut-être à 20, 30, 40, 60 mètres, dans plusieurs endroits disséminés. Pour y parvenir, il faut envoyer des forces spéciales, il faut être sur place. Ce n'est pas parce qu'il y a des cellules du Mossad dormantes en Iran qui vont y parvenir. Non, il faut un état de chaos. Il faut que l'État soit failli. Si l'État est failli,
il faut les armes américaines.
Oui, il faudrait la GBU, la fameuse bombe qui a été utilisée une fois en Afghanistan parce qu'elle va pas loin.
Ça aussi, c'est une question, c'est une bombe. Hein, à quel point il y aura le soutien.
Mais,
pour l'instant, il y a un soutien tacite, mais il n'y a pas un soutien militaire.
Pas cette bombe-là. Très honnêtement, je suis quasiment certain que cette bombe-là, qui est tout de même la bombe la plus puissante au monde conventionnelle et qui équivaut à peu près à un trentième du puissance d'une bombe B-61 nucléaire, c'est quand même pas une bombe nucléaire, mais enfin, c'est quand même assez puissant. Elle a été utilisée qu'une fois, elle est dans l'arsenal américain, elle ne bougera pas de l'arsenal américain. Donc ce ne sont pas avec des bombes qu'on arrivera à bout de Fordo, pour aller schématiquement si vous voulez.
Donc Zibillon nous dit finalement qu'il pense que le régime ne tombera pas, et vous nous dites finalement d'une certaine manière que ce sera compliqué pour Israël d'arrêter.
Didier Billon a dit que le régime ne changerait pas. Ce qui est différent.
Et le régime
pourrait tomber, mais il ne changerait pas parce qu'il n'y a pas d'alternative.
Et vous vous dites qu'Israël ne peut pas changer le régime. Comme ça, on est sur les deux plans en tout cas. Vous, de la même manière, ce côté nucléaire, vous nous dites que les infrastructures, le programme nucléaire iranien ne pourra pas être mis à l'arrêt ou difficilement par Israël.
Bien sûr que non.
Pour ces raisons-là. Donc Didier Billon, si on se projette sur l'après. Parce qu'il nous reste 5 minutes, même pas. Si on se projette sur l'après, parce que est-ce que Israël peut tout perdre aussi avec c'est ce qu'on a commencé à évoquer, avec cette offensive en Iran, le régime ne tombe pas, si le régime ne change pas, est-ce qu'il y a le risque que celui-ci accélère son programme nucléaire face à justement cette offensive. Puis il y aura eu la preuve qu'Israël peut envahir l'Iran, peut mener une offensive d'ampleur en Iran.
Dans l'hypothèse où le programme nucléaire se poursuit, donc qu'il y a un échec des opérations militaires menées actuellement par Israël, ce serait évidemment un revers. Mais est-ce que cela signifie qu'Israël perdrait tout ? Non, parce que moi je raisonne toujours au niveau politique. Bien sûr, il y a le niveau militaire. Mais enfin là, clairement, quand on regarde non seulement la configuration de l'Iran, mais de l'ensemble de la région, il y a une forte asymétrie au profit d'Israël qui domine de la tête et des épaules l'ensemble des autres puissances militaires.
Bien sûr. Et par ça, ailleurs, dire aussi qu'Israël a obtenu aussi, a acheté une forme de soutien des Occidentaux en s'en prenant ainsi aux installations nucléaires.
Oui.
Il y a eu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Luc Barrot, qui a dit « Nous nous tenons prêts à contribuer à la protection d'Israël ». Et là, on est dans la guerre de diversion par rapport à ce qui se passe à Gaza.
Mais ce qui me paraît le plus important, si on raisonne sur le moyen terme, si on tente de raisonner bien modestement sur le moyen terme, c'est l'isolement d'Israël dans la région. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y avait eu les accords d'Abraham, des accords de normalisation avec 4 États arabes. Il était bien question, avant le 7 octobre, de parvenir à un accord avec l'Arabie saoudite, qui avait été expliqué par Mohammed Ben Salman 10 jours avant le 7 octobre, à Fox News aux États-Unis. Donc tout cela indiquait qu'il y avait un mouvement politique. Aujourd'hui, les États arabes de la région ne veulent plus parvenir ou illustrer ces accords de normalisation. Parce que l'isolement qu'on évoquait tout à l'heure, il faut la relativiser. J'ai été surpris, pour ma part, de la fermeté du ton de Mohammed Ben Salman, celui qui de facto dirige l'Arabie saoudite, dès vendredi matin, condamnant fermement l'attaque israélienne en défense du peuple frère. Ouais. Donc que les Saoudiens disent cela à propos des Iraniens est quand même un indicateur.
Oui, parce que ce sont deux rivaux dans la région.
Ça, c'est clair. Oui, mais rivaux, rappelons-nous qu'il y a 2 ans, il y avait une sorte d'accord de normalisation sous l'égide de la Chine. Donc il y a des modifications géopolitiques et la crainte, pour revenir à votre question très rapidement, c'est un risque politique d'isolement. Et c'est pourquoi je considère, pour ma part, que si Israël a le droit de se défendre, ça nul ne le nie. C'est aujourd'hui une politique qui contribue à l'isoler, et je suis de ceux qui pensent que Netanyahou se tire une balle dans le pied tous les matins quand on raisonne aux intérêts d'Israël sur le moyen terme.
C'est pourquoi je disais que ça pouvait se retourner aussi contre Israël, parce qu'évidemment
politiquement,
ça peut se retourner contre Israël si les objectifs ne sont pas atteints côté israélien, à savoir en finir avec le nucléaire, en finir avec le régime. Est-ce qu'Israël veut en finir avec le nucléaire ou avec le régime ? C'était la question qu'on posait. Et évidemment, vous avez établi ce lien de cause à effet. Israël doit provoquer la chute, le changement du régime iranien pour en finir avec le nucléaire iranien. Mais on a bien compris que c'est loin d'être le cas en écoutant vos propos. Merci beaucoup à vous deux, Didier Billon et Benjamin Haute-Couverture. Merci beaucoup et merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat et à Hélène Avril à sa réalisation.
RFI.
Allez, dans une minute, le grand journal du soir, on va continuer évidemment à évoquer la situation au Proche-Orient. Le dossier sera consacré à l'avenir des dirigeants iraniens menacés par Israël. Et puis 30 minutes plus tard, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce lundi. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On jette un coup d'œil au programme qui nous attend ce soir.
Absolument. Le président Donald Trump. Oui.
Menace de rallonger la liste des pays dont les ressortissants seront interdits d'entrer aux États-Unis.
Mais oui, c'est une note interne du Département d'État qui indique que 36 nouveaux pays seraient visés par ces restrictions. Parmi eux, 25 pays africains. Ils ont reçu ce week-end un câble diplomatique signé de la main du secrétaire d'État américain Marco Rubio.
Allez, cette fois, je vais le lire tout seul. En Guinée, le chef de la junte au pouvoir annonce la création d'une direction générale des élections au sein du ministère de l'Intérieur.
Ouais, selon un décret lu samedi soir à la télévision nationale, cette nouvelle entité sera notamment chargée d'organiser les élections politiques et les référendums et d'établir et réviser le fichier électoral biométrique. L'opposition dénonce, je cite, un verrou militaire servant à maintenir le général putschiste à la tête de l'État.
Eh bien, rendez-vous dans 30 minutes et dans 30 secondes.